De toute façon, au générique, il y aura déjà forcément Chimène Badi au début de chaque générique. Entre nous, c'est le temps qui s'enfuit, qui s'enfuit. Il faut que tu viennes chanter avec moi.
Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, le podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité. Et là, vous devez vous demander, mais d'où vient cette voix que vous ne reconnaissez pas ? Moi, c'est Chantal, je suis une ancienne journaliste beauté et fondatrice des podcasts Beauty Toaster et je lance ma start-up beauté, deux podcasts dédiés à l'entrepreneuriat et à l'évolution du secteur cosmétique. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Céline et Margot, que je connais grâce à un groupe WhatsApp de podcasteurs, m'ont demandé de prendre leur micro et de les interviewer à propos d'Entre nos lèvres, la marque pour les petits tracas quotidiens du corps et de l'esprit. Et oui, réaliser un podcast, c'est une chose, et lancer sa marque de cosmétiques, c'en est une autre. Et pour faire le tour de la question, on parlera de la construction du projet, des valeurs, des difficultés à affronter ce milieu quand on n'est vraiment pas du sérail et de plein de métiers qu'on apprend sur le tas et de plein d'autres choses. Allez, c'est parti. Alors, bonjour Margot.
Salut.
Bonjour Céline. Salut. Je suis ravie d'être avec vous.
Ah, nous aussi.
Alors, comment l'idée de créer Entre nos lèvres les soins est apparue ? C'est quoi le lien avec le podcast ?
Je pense qu'on en a un tout petit peu déjà parlé dans les épisodes d'avant. Il y a un moment où, en fait, à force de recevoir plein de personnes qui nous confiaient leurs témoignages par rapport à leur sexualité, et aussi ceux qui écoutent ENL savent qu'on ne parle pas que de la sexualité, mais qu'on parle aussi beaucoup du corps, de ses tracas, de la confiance qu'on a en lui ou pas, de comment est-ce qu'il nous entrave, ou de toutes ces choses-là. On s'est quand même dit, il y a quand même pas mal de trucs qui manquent encore de soins qui n'existent pas et que ce serait chouette d'inventer justement pour pouvoir répondre à tous ces problèmes. Et donc ça, c'est un truc qui nous trotte dans la tête depuis super longtemps, mais comme on l'a aussi dit dans les épisodes précédents, on ne gagnait pas d'argent, donc ce n'était pas possible de créer ces projets-là sans argent.
Comme c'est aussi un métier qu'on ne connaissait pas du tout, on ne se disait même pas que c'était possible. Tu vois, il y avait un truc de... Oui, ça manque, tout comme il manque plein de dispositifs médicaux pour les femmes, pour les accompagner, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui manquent aujourd'hui, mais en fait, nous deux, on se disait, on a les idées, mais alors, déjà qu'on avait créé un podcast sans savoir faire de podcast, on se disait, c'est déjà pas mal, tu vois. On n'envisageait, je pense pas, ou on se mettait en tous les cas les barrières à ce moment-là sur le fait que ce serait possible pour nous de développer ça.
Mais tout comme aujourd'hui, si on se disait, tiens, en fait, on se rend compte que dans la mode, à partir du 52, c'est très compliqué de s'habiller. Tiens, on veut lancer une marque pour faire des vêtements qui vont du 52 au 68, j'en sais rien. On serait perdu parce qu'on saurait pas par où commencer, comment faire pour pallier à ce manque, tu vois. On était un peu à ce stade en se disant, il y a plein de trucs qui manquent, ce serait trop cool de les créer, mais on sait pas trop comment faire. C'est quoi le premier pied à l'étrier que tu mets?
Je dis toujours que tu as besoin aussi de tout savoir parce que, bon, alors on n'a pas repris des études de journalisme pour lancer le podcast, mais ni des études de psy. Mais comme on le faisait gratuitement aussi, tu as un petit syndrome de l'imposteur, mais il n'est pas très grave. Là, tu te dis, attends, si demain j'invente un nouveau truc génial, ce serait quand même bien que.
Oui, et puis tu te dis que tu n'es pas en mesure de l'inventer. Quand tu vois les marques qui existent autour de toi, tu as plutôt l'impression que les personnes qui l'ont fondé, ce sont celles qui sont dans les laboratoires, avec leurs petites blouses de laborantin, et qui créent tous les produits, etc. Tu as un peu cette image d'Épinal quand c'est tu vrai. Penses aux cosmétiques. Donc nous, on n'y connaissait vraiment rien à ce milieu. Et quand bien même on y avait connu quelque chose, on n'aurait pas eu les sous de se lancer.
Donc le premier truc qu'on a fait, justement, on avait référencé sur notre site quelques marques qu'on aimait bien et dont on trouvait que leurs produits étaient chouettes. Et on s'est dit, bah on va les contacter, elles. Et en fait, à l'époque, ce qui se faisait, d'avoir des espèces de collaborations entre un influenceur, entre guillemets, alors je mets tous les guillemets du monde, et une marque pour créer un produit spécial. Et nous, ce qu'on voulait, c'était un peu ça. On s'est dit, bah on va aller vers ces marques-là, on va leur proposer de travailler avec elles, de partir de ce qu'elles ont déjà créé et de voir avec nos idées à nous ce qu'on pourrait peut-être faire ensemble. C'est le moment où on s'est rendu compte qu'on était vraiment des influenceuses en carton parce que tout le monde nous a dit non.
Bah ouais.
Tu vois, on s'est dit, oh putain, on a vraiment aucune genre force de frappe, aucune crédibilité, genre ça donne envie à personne. Ils nous disaient, si, ça nous intéresse que vous parliez de nous, mais on veut que vous parliez de nous. pour nos produits qu'on a fait pour notre marque. On ne veut pas changer le packaging, on ne veut pas changer la formule. Non, c'est ça qu'on a créé et on voudrait que vous parliez de ça. Je pense qu'on avait déjà envie de créer, on avait déjà envie de mettre nos couleurs sur des produits, on avait déjà envie de travailler un peu les formulations, enfin d'apprendre ça, ça montait.
Et alors, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Vous dites, on va le faire nous-mêmes. Vous faites quand même une petite étude de marché en vous demandant si c'est faisable, si ça peut être rentable ou...
En fait, comme on était dans une démarche de référencer des marques sur la boutique, on n'en référence pas beaucoup, mais on en a rencontré beaucoup. On ne veut pas du tout avoir une offre exhaustive sur notre boutique. On a vraiment envie de référencer des produits que nous, on a vraiment beaucoup aimés, qui ont marché pour nous. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils marcheront pour tout le monde, mais en tout cas, nous, quand on les a utilisés, on a été 100% convaincus et ce sont des produits que nous, on recommande autour de nous. Et en fait, comme ça, à force de rencontrer des marques, faire un peu ce travail de réseau qu'on n'avait jamais fait et en fait qu'on peut faire grâce à notre activité de revendeuse, on rencontre une petite marque hyper chouette qu'on peut pas citer malheureusement, mais avec laquelle on s'est hyper bien entendu. C'était deux nanas qui avaient notre âge, qui venaient de lancer leur marque aussi, avec des produits super chouettes qu'on avait bien aimés. Elles viennent toutes les deux en fait du milieu très technique de la cosméto. Il y en a une qui travaille dans le réglementaire. C'est toute la partie réglementation de est-ce que le produit correspond à telle norme, à toxicité, enfin tout le truc très technique de est-ce qu'on peut mettre un produit sur le marché ou pas. Et l'autre qui, elle, a un profil très créatif, qui s'occupe de toute la R&D, de développer les produits, de les fabriquer, etc. Et donc, elles ont ces deux casquettes pour cette marque. Et quand on échange ensemble, comme leur marque se lance et qu'en fait, c'est les tout débuts et lancer une marque, c'est compliqué, elles nous disent qu'elles galèrent, qu'elles n'ont pas d'argent et qu'en fait, comme elles ont leur expertise de leurs études, etc., elles disent en fait, du coup, nous, pour essayer de rentabiliser un peu, on aimerait bien devenir un peu un labo et aider des marques comme ça à créer leurs produits. Et nous, on se dit, mais...
Banco
jackpot. Parce qu'elles ont les profils idéaux et elles cherchent justement des petites marques comme nous qui ont envie de se lancer, qui leur font confiance. Ce qui est surtout hyper chouette, c'est que si on avait voulu trouver un labo, par exemple, aujourd'hui, déjà, on aurait galéré parce que le labo, aucune marque ne dit quel est son labo. C'est le secret défense de toutes les marques. Donc, en trouver un bon, c'est pas possible. Et quand bien même on aurait réussi, aujourd'hui, les labos, le minimum de quantité pour produire, il est énorme. Il faut sortir beaucoup d'argent au début et ça, c'était impossible pour nous. Et là, l'avantage de rencontrer ces deux nanas et de travailler avec elles à, entre guillemets, à échelle humaine, c'est qu'en fait, si on veut lancer un produit et qu'on veut en sortir d'abord que 100 exemplaires, on peut. Elles nous disent, si vous faites ça avec nous, déjà, vous n'allez pas avoir les délais d'attente des labos, parce qu'un labo, entre le moment où on lui pitch une idée et le moment où, déjà où il nous rend un premier projet d'ébauche de produit, il peut se passer 8 mois.
Oui, puis alors, c'est le truc un peu drôle, c'est que dans l'année qui a suivi, à un moment, on a été en contact avec un autre labo, justement, pour voir. Et je me rappelle du moment où on s'est dit, comment ça se passe? On peut se faire une petite visio, puis on vous raconte ce qu'on veut, tout. Et là, le labo nous renvoie un doc de 10 pages de brief. J'ouvre le truc et j'ai dit à Céline, je comprends pas. Je comprends pas. On a déjà, à l'époque, on a déjà développé quelques produits, mais je dis, mais vraiment, je sais pas ce qu'il veut, je ne comprends pas. Et j'ai pas d'humain derrière.
Il n'y a pas de dimension créative de la part du labo. C'est en fait, toi, tu leur fais un brief sur ce que tu veux, ils répondent au brief, ils t'envoient une propale. Et en fait, sachant que tu es censé avoir fait un brief hyper précis, si jamais tu as un retour sur leur proposition, c'est facturé en plus. Et les allers-retours sont payants.
Et en fait, si on avait dû faire ça, je pense qu'on se serait arrêté aussi tout de suite parce que c'était vraiment aussi la dimension co-création et humain qui nous a vachement encouragés à le faire et à travailler ces produits, quoi.
On est tombé sur ces deux nanas qui ont vraiment été, mais vraiment des anges tombés du ciel pour nous. Le premier produit qu'on a voulu lancer, c'était la crème pour les cuisses qui frottent. On se fait un call toutes les quatre et on leur dit, en fait, nous, on a les cuisses qui frottent. En été, c'est super chiant. On leur explique tout notre problème. Il n'y a pas de produit naturel et chouette sur le marché. Que nous, la seule crème qu'on a, c'est une crème qu'on achète en parapharmacie et qui est super naze, dans laquelle il y a plein de silicone, qui est pourrie pour l'environnement, enfin, tous ces trucs-là. Et qu'en fait, nous, on aimerait la même chose, mais de façon beaucoup plus responsable, beaucoup plus clean. Et on voudrait aussi que ça marche pour les ampoules, pour les soutiens-gorge, les bretelles du sac à dos. Enfin, en fait,
le couteau suisse, quoi.
Exactement. Ouais, voilà. En fait, on veut une crème isolante sans silicone.
Et ce qui est important pour nous aussi à ce moment-là, c'est que les produits ne disent pas à quoi ils servent. Moi, pendant très longtemps, j'avais ce problème de cuisse qui frotte. Et en fait, c'était un peu honteux parce que... tu te dis, c'est parce que je suis grosse, ou c'est parce que mes cuisses, elles sont pas comme il faut, ou c'est parce que ceci, cela. Et du coup, t'oses pas le dire. En fait, il y a rien qui répond à à ça. Parce que tu vas en pharmacie, il n'y a pas écrit un truc genre crème pour les cuisses qui frottent. Enfin, tu vois, et tu sais que
ouais,
c'est
ouais,
ça.
Ouais, ouais, bien sûr.
Et du coup, ce qu'on se dit à ce moment-là, c'est outre le fait qu'on veut un truc hyper clean, hyper bien, on veut dire à quoi ça sert. Il ne faut pas que les gens aient honte d'une quelconque partie de leur corps parce qu'en fait, ça arrive à plein de gens et c'est complètement OK. On va créer des produits et on va vraiment vous dire à quoi ils servent et on ne va pas en avoir honte et ça va être écrit en gros sur le packaging avec les vrais mots. On ne va pas tourner autour du pot.
On se fait cette petite vidéo et on dit, bah voilà, nous, on veut ça. Et en fait, les nanas, bah, elles bossent de leur côté. Et quelques semaines plus tard, justement, elles sont hyper réactives et surtout, elles sont passionnées. Donc en fait, tu leur pitches une idée de produit, elles comprennent tout de suite ce que tu veux et elles se mettent à fond dedans, ça les anime. Et en fait, c'est ça qui est chouette, notamment avec celle, du coup, qui a le profil R&D qui s'appelle Camille, parce qu'on va parler d'elle, donc nommons-la. Elle est passionnée par son boulot et pour elle, c'est un métier artistique. Elle adore ça. Elle réfléchit tout le temps à « Ok, quel nouvel ingrédient est-ce que je peux trouver ? Qu'est-ce qu'on n'a encore jamais utilisé ? Ah tiens, j'ai entendu parler de ce truc la dernière fois. Je pense que ça pourrait hyper bien marcher. Je vais essayer ce truc-là. » Elle n'a pas de limite. C'est vraiment chouette de bosser avec elle. Et en fait, quand elle nous envoie un premier essai, on n'est pas encore en été. Donc on se dit bah, « Comment est-ce qu'on peut faire pour le tester, pour savoir si ça fonctionne ?» Tu vois ? Parce que c'est un peu le truc. Et bah, puis, c'est pas ça. Comme une crème hydratante ou un truc où tu le mets et le résultat est un peu subjectif. Tu vois, genre une crème pour les cuisses qui frottent, il faut que tu la mettes et que tes cuisses, elles frottent pas.
Voilà.
Donc, on se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, bah, je sais pas, faut qu'on aille dans une salle de sport et qu'on se mette sur des tapis de course et puis qu'on marche pendant des heures et qu'on transpire et qu'on voit si ça marche, quoi. On a loué une chambre d'hôtel. Il y a une salle de fitness à laquelle on pouvait avoir accès plusieurs heures dans la journée.
C'est libre, ouais.
On a aussi choisi cet hôtel parce que, par ailleurs, il avait un sauna et un hammam et on s'est dit, on va la tester là-bas.
C'est
en fait,
vrai.
On était là, genre, on veut le tester dans les pires conditions
ouais,
du monde.
C'est ça.
Donc chaleur sèche à ouais. 45 degrés ouais. et chaleur humide à 40.
Et à la fin, on était en mode, ça frottait pas, mais on se disait, est-ce que juste on l'a pas assez bien testé? On avait quand même le sentiment que faire les 100 pas dans un hammam et le tapis de course, ça fonctionnait, mais c'était pas non plus les conditions dans lesquelles on le faisait d'habitude. Et c'est là qu'on s'est dit, bah attends, il faut qu'on le teste sur des personnes qui habitent dans des pays chauds, qui habitent dans le sud de la France.
Oui, oui,
et tout
oui.
Et tout.
Ouais.
On a un petit compte Instagram privé auquel on n'a accès que par notre newsletter. C'est un truc un peu secret. C'est vraiment les, entre guillemets, les fans de NL. Et c'est sur ce compte-là, souvent, qu'on partage les développements de nos produits, qu'on cherche des testeuses ou des testeurs pour les développer avec nous et tout. Et là, on leur dit, ben voilà, on va lancer une crème pour les cuisses qui frottent. Qui parmi vous a les cuisses qui frottent et qui serait susceptible en ce moment de la tester dans des conditions un peu hardcore? Et donc là, bon, on reçoit des mails, je sais pas, une centaine. On avait préparé un petit formulaire de gens qui nous disent, ben moi, je pars en vacances en Amazonie, ou moi, j'habite au Portugal et ceci, ou moi, je suis pilote d'avion, et en fait, mes cuisses, elles frottent tout le temps. Et on se dit, ben en fait, on va les envoyer à ces nanas-là et elles vont tester la crème.
On choisit une dizaine de testeuses à qui on envoie la crème. Et là, se passe quelques semaines où on est genre overstressé à attendre. Et là, genre, est-ce qu'il y a déjà... la crème est arrivée en Amazonie parce que la poste, c'est pas sûr. Et deux, est-ce que la personne a eu le temps de la tester? Et trois, est-ce qu'elle va nous faire un retour? Et est-ce que le retour, il est bon? Et on prépare un petit formulaire avec... plein de questions, genre est-ce que ça a frotté au bout d'une heure, au bout de deux heures, au bout de trois heures, est-ce que ça n'a pas frotté du tout? Est-ce que vous avez eu des boutons d'irritation? Est-ce que vous l'avez testé sur vos pieds, sur des ampoules, etc. Donc on leur pose beaucoup, beaucoup de questions pour justement avoir un espèce de panorama des utilisations et de leur satisfaction. Est-ce qu'en fait, si cette crème existe, vous l'achetez? Est-ce que vous la trouvez bien? Est-ce qu'elle correspond à votre usage? Et là, ce qui a été chouette, c'est qu'on a été très rassurés parce qu'on a reçu 100% de réponses positives de tout le monde. Toutes ces personnes-là nous disent « c'est bon, ça marche, c'est super. Ça marche quand il fait 45 degrés et hyper humide, ça marche quand je fais mon footing, ça marche sur mon mec, ça marche sur mes enfants. » On se dit « bon, on a dû arriver à un moment où c'est bon. »
Donc ça, c'est la première partie sur un peu le développement de la formulation. Et en fait, ces nanas-là, ce qu'on a oublié de dire, c'est que avant de lancer leur marque, elles ont toutes les deux travaillé dans des grosses boîtes. Elles ont travaillé notamment chez Estée Derme, chez Chanel, chez Bioderma. Elles ont bossé chez des grosses pointures. Notamment Camille, justement, qui était en R&D. Dans ses expériences précédentes, elle était force de proposition. Elle se faisait tout le temps recaler parce qu'on disait, en fait, tes formules, elles coûtent trop cher. On peut faire la même chose avec des coûts formules 10 fois moins importants. c'est bon, on a un truc qui marche, les gens ils s'en foutent, on fait ça et puis basta. En fait, elle s'emmerdait vraiment au boulot, quoi.
Puis ça correspondait pas à son éthique non plus.
Oui.
Pour nous, toutes ces choses-là sont importantes au même niveau et t'as pas envie, quand tu commences ta carrière, de te dire bah, j'accepte de pourrir la planète, je m'assois sur mes valeurs pour des générations à venir. Tu te sens pas alignée. C'est pour ça qu'elles avaient envie de créer leur propre marque et c'est aussi pour ça que je pense que dans le choix des associations, c'était important aussi que tout le monde soit aligné et ait envie de créer des produits le mieux possible, même si quand tu crées quelque chose, bah, tu peux pas avoir un impact écologique nul, malheureusement.
Mais
en tous les cas, essayer de faire vraiment au mieux.
Et surtout, nous, ce qu'on découvre à ce moment-là, pareil, ça, on ne pouvait pas s'en douter une seule seconde, c'est qu'elles disent, mais vous, déjà, c'est énorme ce que vous faites de financer de la recherche et du développement, etc. La plupart des marques, aujourd'hui, elles achètent des formules toutes prêtes en marque blanche. C'est-à-dire qu'un labo, il va avoir un catalogue de formules déjà préfabriquées. Et en fait, toi, tu vas dire, ah ben tiens, mettez-moi tel parfum, tu fous ton étiquette dessus avec ton logo et puis c'est fini. Enfin, nous, on tombe des nues quand on découvre ça. Parce que du coup, tu te... Encore une fois, nous, ce qu'on imagine, c'est des petits laborantins avec leurs petites blouses qui préparent,
leur crème.
Exactement.
C'est le moment, en fait, tu apprends qu'en réalité, en magasin, tu as la même formule dans plein de packaging différents, à plein de prix différents pour la même chose. Comme on venait pas du tout de ce secteur et qu'on s'y intéressait, mais de loin, comme consommatrice, on est là genre, ah, moi j'en vois plein des petites marques là qui parlent des mois de R&D qu'elles ont passé. Et de leur long discours sur comment c'était compliqué à faire. Mais en fait, du coup, c'est que du mytho. Ce qui est rigolo maintenant, c'est qu'à force, on apprend à les repérer. Les marques blanches, tu regardes la liste Inky des ingrédients. Donc la liste Inky, c'est la liste des ingrédients en latin. T'es légalement obligé de mettre sur tout.
C'est, alors, c'est du latin et il y a aussi de l'anglais. Quand c'est le latin, c'est naturel. Et quand c'est en anglais, c'est plutôt de la synthèse.
Ah oui. Et en fait, là où tu peux t'en rendre compte, c'est si cette liste, elle est exactement la même sur quatre marques de crèmes différentes. C'était une création d'un laboratoire et qu'on l'a juste acheté et qu'on a mis son packaging dessus. C'est vrai que on l'aurait pas fait comme ça, mais surtout, déjà, nous, on n'aurait pas pu parce que, en vu les produits qu'on demande, ça n'existe pas sur des formules de catalogue. Mais tu te dis aussi, où est la partie drôle et créative quand t'as envie de créer une marque, même si c'est un domaine dans lequel tu t'y connais pas au départ, tu t'as justement le truc sympa, c'est s'associer à des experts et apprendre. Et en fait, nous, on a appris tellement de trucs. Et ce qui fait encore partie de nos meilleurs moments, c'est toutes ces parties d'échange où justement, on fait nous-mêmes nos recherches, on trouve des ingrédients, on leur demande est-ce que cet ingrédient-là, il aurait une efficacité parce que j'ai lu dans telle étude que ça pouvait marcher sur les pathologies vulvaires, etc. Et en fait, tu peux pas faire ça si t'achètes un produit de catalogue.
Ah bah non.
Parce que t'es pas du tout dans la partie conception, création, etc. Voilà.
Le fait de pas s'y connaître, en fait, on a une naïveté qui fait que on peut demander un peu l'impossible, tu vois.
Ouais.
Je vais prendre un exemple à la con, mais c'est un peu comme sur le développement du site internet, c'est très technique. C'est moi qui le code. Et en fait, moi, quand je vais développer le site, même si je suis créative, je vais parfois être freinée parce que je sais qu'un truc est hyper compliqué à faire et du coup, je vais plutôt essayer de faire un truc un peu plus facile, machin. Et Margot, qui n'y connaît absolument rien, parfois elle me dit, mais est-ce qu'on pourrait pas faire ça, 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 ça? Souvent, mon premier réflexe, c'est d'avoir la flemme.
Elle me fait chier avec ses idées.
Et lui dire, non, mais mon chef, en fait, tu te rends pas compte, là, parce que tu me demandes, t'as l'impression que c'est hyper simple, mais en fait, c'est des heures et des heures de code, et c'est super chiant à faire, quoi. Et au final, je finis par le faire, et effectivement, c'était trop cool qu'on l'ait fait. Et du coup, là, c'est un peu pareil avec la cosméto. Peut-être que Camille, quand elle développe les trucs, elle a ses habitudes, les trucs qu'elle sait qui marchent bien et tout. Mais en fait, nous, comme on n'y connaît rien, on va dire, on aimerait vraiment que ça fasse ça. Et elle va dire, ouais, mais c'est compliqué parce que ceci, en mode, mais t'es sûr que c'est pas possible et que si on fait pas ça, 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 attends, moi, j'ai fait des recherches, j'ai vu que ça, 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 et en mode, ouais, vous avez raison, je vais essayer. Et en fait, parfois, ça marche. C'est trop cool de fonctionner
vous
comme ça.
Vous la challengez, quoi, en fait.
Ouais.
Il y a un autre truc aussi, en plus de tout ce qui est formulation, c'est le packaging. Comment ça s'est passé
Pour les packs, en fait, c'est elles qui nous ont aiguillées. Elles nous dirigent vers une entreprise familiale assez chouette dans le Gers qui fabrique des tubes. C'est moi, du coup, qui prends contact avec eux. Je m'occupe de gérer avec la commerciale, de dire, ben voilà, moi, j'aimerais un tube comme ça, comme ça. Je lui envoie le mock-up J'avais fait une 3D hyper précise et on aurait dit que le tube, il existait déjà. Je lui envoie, elle me dit « Ah, mais vous avez déjà un prototype ?» Je suis en mode « Ah non, non, enfin, c'est un dessin Photoshop. » Donc elle me dit « Ah ok, bah, pour faire ça, moi je vous propose une impression offset, machin. » Je suis en mode « Bon, j'y connais rien, moi en même temps, donc je lui fais confiance et je dis « Ok. » Les tubes partent en impression. Je demande à recevoir un tube avant de valider le truc. Ils me disent « Ok, mais je reçois pas de tube. » Faut savoir qu'on est la semaine où Margot se marie.
Oui, parce qu'en fait, un autre truc qui est assez drôle, c'est la première fois que tu lances ton produit, t'as une idée de date comme ça, et en fait, tu te prends des délais supplémentaires de ouf à chaque fois. Donc, en gros, tu te dis, oui, ça prend un mois, puis ça prend un mois, puis ça prend un mois, si on les combine tous ensemble, bah ouais, bah oui, bien enfin, sûr, même on va réussir tout à fait à vous le sortir en juin. Ouais.
Ou même juste ton fournisseur te dit, ça va prendre X temps, vous aurez ça S32, par exemple, et en fait, tu l'as S37.
Oui, on ne savait pas parler en S32-37 à l'époque, maintenant on a commencé à comprendre. Donc, on s'est fait un énorme calendrier sur Excel avec plein de couleurs pour dire, ça, ce sera fait en même temps que ça, en même temps que ça, et les semaines passent, et tout se décale tout le temps. Et Céline, au départ, qui est toujours celle qui est quand même hyper zen, et puis tu vois, genre, mais non, mais en fait, ils nous ont dit que ça prendrait 4 semaines, ça va prendre 4 semaines, et moi, je suis là, genre, je suis pas sûre. Et donc, vraiment, la deadline se rallonge, jusqu'à ce qu'effectivement, les tubes soient faits la semaine de mon mariage.
Une semaine avant, en plus, tu vois, genre, en plein d'organisation,
pas dispo.
Et tout, on reçoit les tubes, putain, ils étaient affreux. T'as juste une impression au milieu, t'as une bande blanche en bas, le jaune est mal imprimé, le noir rend un peu vert kaki.
Nous, on trouve que c'était horrible. Mais c'est parce qu'en fait, dans notre tête, on l'a rêvé le truc, tu vois, il était de notre beau jaune. Dans le... Et là, on voit arriver ce truc et on se dit, c'est horrible. Mais on a un vrai problème à ce moment-là, c'est qu'on se dit, si on n'utilise pas ces tubes, bon, un, on fait un énorme gâchis quand même. Vraiment, t'as tout fait pour être écologiquement le mieux et là, je vais jeter ces 1000 tubes-là.
On se dit, bah, on va quand même les utiliser, tu vois. On va demander à notre communauté ce qu'ils en pensent. Donc, de retour sur notre petit compte Instagram secret, on leur fait une photo du tube en leur disant qu'est-ce qu'ils préfèrent recevoir leurs produits dans des tubes pas très jolis selon nos standards exigeants. Voilà. Ou est-ce que vous préférez que la prod ait du retard et recevoir votre produit dans un beau packaging. Mmh. Mais dans ce cas-là, ce sera plutôt le mois de septembre et pas le mois de juillet.
Dommage pour une crème pour les cuisses qui frottent.
Évidemment, tout le monde nous a répondu, on s'en bat les steaks, on veut la crème maintenant.
Ouais.
Donc c'est parti. Et pareil, le conditionnement, c'est tout un truc. Du coup, les deux meufs avec lesquelles on bossait, qui ont pu nous les conditionner, elles ont acheté une soudeuse. Parce qu'on a découvert qu'un tube, en fait, quand tu l'achètes, il n'est pas fermé. Margot, au début, quand je lui envoie les photos des tubes, elle me dit, mais ils sont bizarres, les tubes. Je lui dis, comment ça? Elle me dit, bah, je sais pas, ils sont ronds.
C'est des tubes. C'est des tubes.
C'est des vrais tubes.
C'est cylindrique. Et en fait, tu mets la crème dedans. Et après, tu scelles et tu soudes et tu fermes. C'est d'une évidence folle une fois que tu le sais, parce que c'est pas via le tout petit truc qui fait 2 mm
oui,
que
c'est
tu le
sûr.
Fais rentrer.
Ouais, est-ce que t'as déjà essayé de faire rentrer le dentifrice dans ton tube? Tu n'y arrives pas. Donc bah, voilà, ils l'ont fait rentrer de l'autre côté.
Mais ça, on l'a découvert
ouais,
à ce moment-là.
Ouais, ouais.
Donc là, une fois que la prod est prête, il faut tout acheminer à notre logisticien. C'est l'entreprise qui, quand vous passez une commande sur notre site, réceptionne la commande, voit que telle personne a commandé tel et tel produit et qu'il faut livrer à telle et telle adresse, elle prépare la commande et elle l'expédie. Et du coup, tu as toujours cette étape un peu stressante où quand notre prod est terminée dans notre labo, bah là, il faut déplacer les exemplaires du labo au logisticien.
Sachant qu'en plus, nous, ce qu'on a décidé de faire depuis le début, comme on n'a ni investisseur, ni trésorerie, etc., c'est qu'au moment où on a l'idée, on l'a avancée, on décide de faire des précommandes sur notre site. C'est un système que nous, on trouve plutôt win-win pour tout le monde, c'est-à-dire c'est bien pour nous parce que ça veut dire que pendant, bah, par exemple, avant d'avoir les facturations de ton conditionnaire, etc., tu as pu accumuler un peu de trésorerie parce que ta communauté, elle, a pu acheter un peu avant de recevoir le produit. Pour les gens, ce qu'il y a de bien, c'est que ce qu'on fait, nous, c'est qu'on décide de proposer nos créations à un prix réduit avant que le produit soit créé. Et c'est un prix qu'ils ne retrouveront plus jamais après, même si il peut exister de temps en temps des petites promos. En tous les cas, ce prix-là, ils ne le retrouveront plus. Et comme ça, c'est pour les remercier aussi du gage de confiance, en fait, parce que ils décident de nous aider à lancer quelque chose avant que le produit soit présent, etc.
Tu vois, par exemple, aujourd'hui, si tu veux acheter la crème pour les cuisses qui frottent, eh ben, sur notre site, j'en sais rien, il y a 100 avis que tu peux lire et tu vois qu'elle marche bien et t'es rassuré et t'achètes le produit. Là,
ouais,
les gens, en
ouais.
prenant les précommandes, ils achètent un produit, il n'y a pas encore de retour dessus,
ouais,
à part ceux de nos testeuses. C'est vraiment juste, ils nous font une confiance absolue. on les remercie de ça. Après, ce qui est un peu stressant avec les précommandes, et on s'est un peu raté comme ça au début, c'est que tu annonces une date d'expédition, et comme le disait Margot, finalement, tes fournisseurs, ils te décalent tout, et à la fin, tu te retrouves avec des deadlines qui sont dépassées, et en fait, pour la crème, pour les cuisses qui frottent, mais on a eu que des emmerdes, parce qu'il y a eu les problèmes avec les tubes. Et alors ensuite, pendant l'expédition entre le labo et le logisticien, il y a un carton, je ne sais pas pourquoi, qui ont été ouverts, et on a perdu genre la moitié des crèmes. Donc du coup, on a pu faire partir la moitié des commandes, mais l'autre moitié, on ne pouvait pas.
Et c'était quelle année ?
C'était 2022.
Ouais, donc c'était quand même une année qui était chaude pour tout le monde. Hein. Les retards, les problèmes d'approvisionnement en ingrédients, etc. C'était...
Ouais, parce que pareil, tu vois, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est l'achat des matières premières.
Ouais.
Si on veut la faire très courte et le synthétiser pour tout le monde, quand on réalise un produit cosmétique, on fait la recherche et le développement de la formulation. Une fois qu'on a abouti à une formulation qui nous plaît, là, on commande les matières premières pour réaliser la grosse production. Les matières premières sont acheminées et sont arrivées. Le labo fabrique le vrac de la formule dans des grands seaux, etc. Ensuite, tout ça s'est acheminé vers le conditionneur qui, lui, a reçu préalablement les packagings qu'on a sélectionnés, qu'on a fabriqués, plus les packagings secondaires, des étiquettes, des étuis et tout et tout. Le produit est conditionné dans les packagings et ensuite... c'est expédié au logisticien. Et nous, on a eu des merdes à toutes les étapes, parce que les matières premières, c'était pile poil l'année en plus où on se lance, où les prix ont explosé. Donc, en plus, nous, on avait des matières premières qui coûtent cher. Par exemple, dans la crème pour les cuisses qui frottent, le conservateur, c'est un conservateur naturel issu de la cannelle. Et en fait, il coûte de l'argent, on le trouve pas partout. Donc, son seul fabricant, bah, il était en rupture. Enfin, c'était super compliqué de l'avoir. Et en fait, t'arrives au bout du truc et t'es en mode... Non, j'espère juste que ça va bien se vendre et que ça a servi à quelque chose, tu vois. Parce que encore une fois, c'est de l'argent qu'on a investi. Il faut dire que nous, à l'époque, on se payait toujours pas, quoi.
Et je me rappelle vraiment qu'on se disait, c'est vraiment très compliqué quand même. Enfin, tu vois, genre, il y a pas un moment.
Si j'avais su.
Ouais, c'est ça. T'es un peu. Mais c'est aussi pour ça qu'on se lance à chaque fois. En fait, c'est une fois tu te dis, si tu sais, t'y vas pas parce que c'est un peu flippant. Et après, ce qu'il y a, par contre, je trouve de super, c'est ta capacité d'apprentissage, elle est très forte parce que sur ce premier, on s'est tapé toutes les merdes, ce qui veut dire que ceux d'après, bah maintenant, pour la première fois de notre vie, les pommades qui réparent la peau qu'on a lancées, on a donné une date de lancement et d'expédition qui est juste.
Mais c'est-à-dire que moi, elle me paraissait trop large au début.
Ah oui, d'accord.
Je disais à Margot, on va mettre le 27 novembre, mais tu verras, franchement, on pourra les expédier le 21.
Et bah
que dalle. Si ça part le 27, je vais être super contente.
C'est ça.
En fait, au bout d'un moment, t'as l'impression que tu les as toutes eues et que tu peux pas en avoir des nouvelles. Et ben si, par exemple, une fois, on a eu des flacons qui étaient pas parfaitement lisses. Et en fait, nos étiquettes habituelles, du papier un peu épais, un peu texturé et tout, et ben le papier était trop épais. Et en fait, ça faisait des cloques sur les flacons. Et là, au départ, on reçoit la prod et on est en mode, genre, c'est pas possible. Là, on a 1000 petites huiles. Sur ces 1000 petites huiles, il y a 3000 cloques. Et tu ne peux pas vendre un produit comme ça. C'est pas possible. En plus, nous, quand même, on se positionne avec un très joli packaging. On n'est pas non plus sur des prix très abordables. Donc, tu peux pas vendre un produit comme ça. Et donc là, tu appelles ton conditionneur et tu lui dis, bah... gars, je suis pas super contente, quoi. Enfin, puis on parle pas d'une étiquette qui est un peu pas droite, parce qu'il y a effectivement les étiquettes pas droites, il y en a tout le temps. Je suis en mode, je vais pas gueuler pour ça. Par contre, là, les petites cloques, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Il me dit, bah non, mais en fait, je vais pas tout désétiqueter et tout refaire. Je suis en mode, d'accord, mais alors dans ce cas, moi, je vais prendre un billet pour Marseille et en fait, moi, je vais venir le faire, tu vois, parce qu'en fait, je peux pas vendre mes huiles comme ça. On a tout réétiqueté. Enfin, tu vois, t'as envie de faire des story coulisses en mode bah, la vie d'entrepreneur, c'est ça. Tu vas aussi réétiqueter des trucs à 2h du matin parce qu'il y a des bulles.
Et qu'on n'avait pas prévu.
Mais non.
Mais surtout maintenant, je me dis que c'est pas grave. Tu vois, genre au début, pour moi, c'était un drame. Tu vois, genre un tube mal imprimé, c'était la catastrophe. Un colis perdu, c'était l'enfer. Un jour, pareil, les cercles de parole, on avait une palette énorme avec les 1000. La palette a été perdue pendant 2 jours. Personne ne savait où était notre palette. Cette expérience, elle illustre un peu pas mal la façon dont on gère toutes nos relations de travail et un peu avec tous nos fournisseurs, c'est qu'on n'a pas envie de prendre la tête aux gens. En règle générale, les gens, ils font de leur mieux et parfois, il y a des erreurs. Et en fait, c'est OK. Juste si on gère ça simplement sans se prendre la tête,
ouais, bien sûr.
Bah, ça se règle bien et tout le monde est content, quoi. C'est les aléas du métier et parfois, ça arrive. Et si tu t'arraches les cheveux à chaque fois, tu vis plus, quoi.
Et aujourd'hui, vous avez combien de produits sur la boutique ?
Alors attends, on a la crème pour les cuisses qui frotte. On a l'huile qui fait tout.
Oui.
On a la petite huile qui fait tout. On a l'huile de soin pour la vulve. On a l'huile de soin pour l'anus. On a le cercle de parole, qui n'est pas un produit cosmétique. Et là,
le livre.
Oui, le livre qui n'est pas non plus un produit cosmétique.
Non, et que tu n'as toujours pas envie de citer.
C'est ça. J'ai toujours pas envie de citer. Et là, on vient de sortir la pommade qui répare la peau. Et on a d'autres produits qui arrivent très vite.
Ouais, donc ouais. C'est une sacrée petite gamme. Hein. Mais ouais. Comment vous financez tout ça?
Quand on a lancé le premier produit, on a utilisé l'argent qu'on avait gagné via la revente d'autres produits qui n'étaient pas à nous. On en avait quelques-uns sur la boutique, ça faisait un petit chiffre d'affaires à chaque fois, petit chiffre d'affaires qu'on utilisait pour racheter du stock. Évidemment, on est des êtres humains, on a besoin d'argent pour vivre, donc on était freelance toutes les deux à côté et on travaillait en plus de tout ça pour gagner notre vie. Mais donc, quand on a commencé à avoir le projet de la crème pour les cuisses qui frottent, on a utilisé ces ressources-là et, si on est complètement honnête, aussi nos propres salaires, parce qu'en fait, ça ne suffisait pas. Par exemple, quand on faisait des missions et que, tu vois, il y en avait deux qui étaient payées, si on se disait qu'il y en avait une qui était suffisante pour nous faire vivre, l'autre, on l'a réinjectée.
En règle générale, en cosmétique, les marques, elles gagnent quand même pas mal de sous sur les produits qu'elles vendent. Nous, comme on fait des petites quantités, on paye la R&D et en plus, on est très exigeante sur le réglementaire. On veut que les produits soient compatibles avec les enfants et tout. Donc, on fait beaucoup de tests.
Et on produit en France
aussi.
Ouais. Donc, nous, on marge pas énormément, mais quand même, on récupère l'argent qu'on a investi. Une fois qu'on a récupéré cet argent, bah, on se paye toujours pas avec et on se dit, bah, tiens, on a une autre idée de produit et bah, on va réinvestir sur ce produit-là. On arrive un peu à faire grossir notre marque et tout, puis au bout d'un moment, on commence à pouvoir dégager une petite marge qui nous permet de réinvestir et surtout de faire un peu d'influence et de travailler avec des artistes, notamment qu'on aime beaucoup, pour parler de nos produits, avoir un peu plus de notoriété. Et en fait, ça nous aide à vendre plus. Et en fait, si on vend plus, on peut produire en plus grande quantité. Par exemple, la crème pour les cuisses qui frottent, c'est aujourd'hui notre best-seller. Là, on vient de faire une production de 10 000 exemplaires de la crème. C'est une victoire énorme. Et on va enfin gagner de l'argent avec cette crème. Maintenant, quand on va vendre un tube, on va gagner de l'argent, ouais. Ce qui n'était pas le cas avant.
C'est quand même un sacré avantage d'avoir une e-boutique, parce que, a priori, vous êtes vendu uniquement sur Internet.
Ouais, alors c'est un choix et en même temps, tu vois, quand t'as pas levé de fonds, on n'allait pas pouvoir arriver devant n'importe qui en disant hey, « Eh, je voudrais louer ton espace qui va coûter au moins 8 000 euros par mois. »
Je veux un pop-up store rue de Bretagne.
C'est ça. Les contraintes font les opportunités, entre guillemets. Donc on s'est dit qu'on allait vendre en ligne et le choix qu'on a fait d'avoir sur notre boutique à la fois des produits qu'on revend et les nôtres, c'était de se dire qu'on avait envie de proposer aux gens qui nous suivaient ou qui allaient aller sur cette boutique le choix, en fait, entre des tas de produits que nous, on trouve qui sont efficaces. Ouais. Donc, c'est pas parce que on va vendre plusieurs références sur un produit ou alors on va créer des produits qui peuvent être en concurrence avec les autres qu'on arrête de les référencer parce qu'on trouve toujours que leurs produits sont bien. On trouve toujours qu'ils sont bien produits, qu'ils sont faits en France, qu'ils sont bien développés, etc. Le choix s'est fait comme ça, mais c'est vrai que par contre, les nôtres, à date, ne sont vendus que sur notre site. Et ça, c'est un choix.
On n'avait pas envie d'être revendu en ligne ailleurs que sur notre site à nous, parce qu'en fait, les sites qui auraient été susceptibles de revendre nos produits, typiquement la crème pour les cuisses qui frottent, l'huile de soin pour la vulve, l'huile de soin pour l'anus, ça va être des sites qui vont aussi référencer les produits que nous, on revend. C'est-à-dire que si en fait nos concurrents revendent les mêmes produits que nous, mais qu'en plus ils revendent nos produits, on n'a plus de valeur ajoutée par rapport à eux. Alors que les personnes qui veulent nos produits, elles sont obligées de venir sur notre site et donc du coup d'en profiter pour acheter les autres produits chez nous.
Et un pop-up, ça ne serait pas envisageable ?
Si, si, on y a pensé. On a regardé les tarifs des pop-up
et
on s'est dit, bah, quand on gagnera un peu plus d'argent. Après, c'est pareil, comme on est encore toujours que deux et que pour l'instant, on se concentre un petit peu sur le développement de la gamme, on reste un peu là-dessus. Mais c'est vrai que c'est des questions auxquelles on pense après. Ça voudrait dire, enfin, faut pas se leurrer, quand tu crées un pop-up, tu gères une boutique pendant un mois.
Oui,
donc,
oui.
T'as les stocks, il faut que t'engages des gens parce que tu peux pas toujours être là, sinon
ouais,
tu peux pas faire le reste.
En fait, c'est surtout qu'il faut que ce soit sur une longue durée. Faire un pop-up sur un week-end, c'est un coût énorme et en logistique, c'est l'enfer. Du coup, tu fais rapatrier un nombre incalculable de stocks au cas où si ton truc y cartonne. en fait, ils cartonnent pas forcément. Et du coup, faut que tu renvoies le stock. C'est des frais logistiques à chaque fois. Et en fait, t'es rarement rentable comme ça sur un si petit week-end. Donc, du coup, faudrait que ce soit sur plusieurs semaines.
Parce que c'est quand même des produits qui demandent, je pense, du conseil.
Ouais, on le voit, on ressent beaucoup de mails de gens qui nous posent des questions sur ces produits ou même quand sur les réseaux sociaux, etc. Donc, et c'est chouette parce qu'on a les connaissances pour les aider, les aiguiller, leur répondre. Et c'est pour ça qu'on essaye aussi de faire en sorte que notre site soit extrêmement fourni en informations. On a des fiches produits super détaillées qui donnent les bienfaits de tous les ingrédients, qui expliquent à quoi ils servent, qui expliquent dans quel cas les utiliser, de quelle manière aussi. Donc, on fait déjà ce travail sur nos fiches produits pour que justement les personnes puissent avoir accès à l'information. Mais il y a aussi parfois d'autres choses qui sont l'expérience sensorielle, tu vois, comme c'est des produits, t'aimerais bien... potentiellement
toucher, essayer.
Bah surtout que nous, on travaille beaucoup dessus. Tu as par exemple l'huile qui fait tout, qui est une huile de soin multi-usage pour les cheveux, le corps, le visage, etc. On a déjà énormément taffé la formule pour qu'elle soit compatible avec tous les types de peau. Mais on a aussi beaucoup travaillé la texture et l'odeur. Et en fait, la texture et l'odeur, nous, on a beau te dire sur notre site qu'elle sent super bon et qu'elle est trop bien. Heureusement, il y a à peu près 80 avis qui disent « Mon Dieu, elle sent trop bon, c'est trop cool ». Tu peux pas la
peux
sentir,
pas croire
tu vois.
Sur parole.
C'est comme nos huiles de soins intimes, l'huile de soin pour la vulve et l'huile de soin pour l'anus. Ce qui est génial dedans, c'est qu'en fait, on a réussi à trouver un procédé breveté qui est hyper intéressant, qui permet de gélifier une texture huile. Tu as tous les bienfaits des huiles végétales dans un soin, mais dans une texture un peu gel épaisse qui permet de te l'appliquer sur les parties intimes sans que ça coule et pouvoir l'appliquer de façon localisée. Par exemple, typiquement la vulve et l'anus, t'as pas envie d'en mettre partout. Et en fait, cette texture, elle est vraiment hyper intéressante quand tu la touches. Et ça, tu peux pas le voir sur le site. Donc, c'est vrai qu'un pop-up ou une boutique, ce serait top pour que les gens puissent découvrir les produits aussi en physique.
Tu disais que le principe était breveté, donc les brevets, ça coûte une blinde.
Oui.
Non ?
Oui, oui. C'est aussi un élément qu'on a appris au fur et à mesure, qui était quand tu développes, on se rend pas compte du prix et des quantités que peuvent imposer en fait tes fournisseurs. Donc par exemple, on a eu la chouette surprise à un moment de justement de vouloir un gélifiant breveté. On avait validé la formule comme ça, elle nous plaisait comme ça, on n'imaginait plus le produit autrement. Mais à un moment, on nous dit bah c'est 20 kilos minimum. Et c'est 7000 balles. Et là, tu fais « Ah !» Sachant que j'ai pas du tout besoin de 20 kilos pour faire ma production.
C'est ça. T'es obligé d'acheter le minimum de quantité. Et souvent, c'est 20 kilos, 25 kilos. Et du coup, bah, en fait, par exemple, pour l'huile d'argan, c'est pas très grave parce qu'on la retrouve dans l'huile qui fait tout et dans l'huile de soin pour l'anus. En assez grande quantité. Donc du coup, c'est pas grave si t'en achètes beaucoup parce que tu sais que tu vas l'utiliser. En revanche, par exemple, le squalane végétal... C'est un actif très fort, t'as pas besoin d'en mettre énormément dans ta compo, et donc du coup tu vas te retrouver obligé d'acheter 20 kilos alors qu'en fait t'en utilises très peu. Donc du coup là on sait qu'on en a pour, je sais pas, créer au moins 20 000 produits, tu vois.
Ouais, d'accord.
Ça c'est des coûts énormes au lancement d'un produit, parce qu'en fait il faut acheter toutes les matières premières d'un coup pour créer ta formule.
Aujourd'hui, vous diriez que c'était une bonne idée de se lancer dans cette aventure ?
C'est vraiment ce qui fait survivre le podcast, en réalité.
Ouais.
C'est la première fois qu'on a lancé quelque chose et qu'on a vu notre communauté réagir extrêmement positivement, nous faire confiance, parce que en vrai, c'était un peu un stress qu'on avait au début. On savait qu'ils nous faisaient confiance, mais tu vois, tu pourrais te dire, est-ce qu'ils vont nous confier une partie de leur santé, tu vois,
enfin,
en vrai,
oui,
c'est
ouais,
important.
Ouais, ouais, bien sûr.
On sentait aussi qu'on était tous alignés, enfin, même sur les questions écologiques, sur les questions de packaging, sur les questions d'ingrédients. On a affaire à des gens très conscients des problématiques, etc. et qui nous challenge aussi à faire toujours au mieux. C'est aujourd'hui ce qui fait survivre le podcast parce que c'était le premier lancement qui a généré du chiffre d'affaires, même s'il a été beaucoup réinvesti et qu'on en est quand même encore qu'au tout début parce que, tu vois, le nôtre de premier produit cosmétique, il est sorti seulement il y a 1 an et 4 mois. Donc c'est encore tout jeune. On est encore une petite marque. On va le rester encore un bon moment. Tu vois, on n'a pas de quoi payer un pop-up. Donc on n'est pas encore... Et chaque lancement qu'on fait est un risque qu'on prend. Donc il faut aussi qu'on fasse très attention par rapport à toutes les idées qu'on a et tout ce qu'on a envie de développer, à bien choisir des choses dont on pense qu'elles vont plaire. Parce que
oui, bah
tu as toujours le risque. En fait, si tu en sors un et qu'il ne marche pas... Et bah, tu peux plus faire la culbute de
ouais,
bon, bah, j'ai investi, je vais récupérer de l'argent et voilà. Je vais pouvoir réinvestir dans le prochain. Donc, à chaque fois, on est toujours un peu stressé quand même. Mais jusque-là, ça marche. Et nous, ce qu'on voulait réussir à faire, c'est avoir comme ça une marque avec des revenus qui nous permettaient de continuer cette aventure et de toujours proposer du gratuit parce que, en fait, on a toujours envie d'aider et de proposer des solutions qui ne soient pas que des soins du corps, qui soient aussi des créations sonores qui puissent te faire du bien à la tête. Parce que je pense que c'est le but. On veut aller encore plus loin là-dedans. Et en fait, tu vois ce que je te disais au début, il existe beaucoup de choses dans la santé des femmes qu'on ne traite pas aujourd'hui, qui pourraient être des dispositifs médicaux.
Par exemple, typiquement, ça fait longtemps qu'on travaille sur un lubrifiant avec Margot qui n'est pas encore sorti parce qu'un lubrifiant est un dispositif médical. Donc, ça prend beaucoup de temps à développer et surtout, toutes ces étapes réglementaires sont très longues. On est en train de rentrer dans ce nouvel univers du dispositif médical et on trouve ça fascinant. Une fois que tu as un premier pied à l'étrier dans ce milieu, tu te dis, mais en fait, maintenant que j'ai accès au développement de dispositifs médicaux, qu'est-ce qu'on peut encore inventer pour aider encore plus et aller encore plus loin. Tu vois, la cosmétique, je pense que c'était une première étape, mais je pense que les dispositifs médicaux derrière, c'est ce qui nous intéresse vraiment beaucoup.
Sky is the limit.
Ouais. Tu vois, une fois qu'on a lancé un podcast, lancé une marque,
un jour, on va cofonder un hôpital. Tu vois, je sais. Il y aura la clinique, Edel.
Non, mais on rigole, mais en vrai, je pense que ça nous a appris. C'est en fait... C'est compliqué, il y a plein d'obstacles, mais on est un bon duo et on a plein d'idées. Et en fait, aujourd'hui aussi, avec les réseaux sociaux, le fait de pouvoir tu vois, monter des choses plus facilement qu'il y a 20 ans, entre guillemets, pouvoir être plus rapide, d'essayer de révolutionner certains marchés, bah, en fait, c'est chouette, c'est le bon moment aussi.
Et la communauté, elle aide pas mal aussi. Hein. Elle vous propose des choses ou enfin, c'est dans les deux sens. Est-ce que c'est vous qui leur proposez des choses ou est-ce que c'est elles qui vous proposent des choses?
On s'est souvent posé la question avec Margot de dire quand on fait des développements produits, est-ce qu'on sonde notre communauté avant? On ne fait pas trop ça, pour le coup. En fait, on tâte le terrain un peu tout le temps pour savoir ce qu'ils attendent, ce qu'ils aimeraient, etc. Mais on ne leur dit pas, par exemple, le prochain produit, qu'est-ce que vous voulez? Et on est souvent, en fait, drivé par nos idées. Par exemple, là, les prochains produits qui vont sortir, je pense que personne ne s'attend à ce que ce soit ces produits-là.
Ok.
Je défie n'importe qui d'essayer de deviner, c'est impossible.
On n'en saura pas plus.
Non, pas. Mais en fait, jusque-là, en tous les cas, on est toujours aussi parti sur, un, nos problématiques à nous, deux, les problématiques qu'on rencontrait à travers le podcast. Donc en fait, on a déjà un début d'idée.
Ou celle de nos potes, tu vois. Genre en fait, maintenant qu'on a lancé cette marque qui répond au tracas quotidien du corps et de l'esprit, souvent mes potes, en pensant se foutre de ma gueule, ils vont me dire « Et puis du coup, t'as pas envie de faire un produit pour ça ?» Et je suis en mode « Eh mais putain, en fait, ce serait vachement bien. »
Après, c'est vrai que c'est important pour nous de sortir les choses une fois qu'on en est pleinement satisfaite et qu'on a l'impression d'apporter quelque chose de nouveau. Parce qu'en fait, il existe beaucoup de produits. C'est pas trop notre but de rajouter un énième.
Vous n'allez pas faire une gamme de 20 produits ENL, par exemple?
Parce qu'il y a 20 problématiques qui ne sont pas traitées, oui, mais en tous les cas, on ne va pas faire une gamme où à un moment, on va sortir la crème de jour et le maquillage, etc. Et en fait, si on veut rajouter une crème de jour sur un site, on va regarder celle que nous, on utilise, qu'on trouve très bien et qu'on va faire rentrer.
Et qu'est-ce que vous auriez voulu savoir avant de vous lancer dans cette aventure de création cosmétique? En même temps, si vous l'aviez su, est-ce que vous vous seriez lancé?
J'allais dire rien, parce qu'en fait...
Si moi, maintenant, même en sachant, je l'aurais refait.
Oui, je l'aurais refait aussi, mais j'ai bien aimé le parcours de rien savoir.
En fait, les débuts de rien savoir, t'es en mode, qu'est-ce que j'ai fait et tout, la moindre merde, t'es en panique, parce que tu sais pas comment la gérer, tu sais pas les conséquences que ça va avoir. Aujourd'hui, on a vu qu'en fait, chaque fois qu'on a eu des merdes comme ça, on s'est relevé, que ça s'est bien passé, qu'on a pu gérer ça en bonne intelligence avec nos fournisseurs et tout, donc... Aujourd'hui, je suis en mode, oui, on le refait, parce qu'en fait, c'est trop cool et on a toujours tout su gérer.
Puis après, ça, c'est notre qualité et notre défaut, c'est on reste un peu toutes les deux. On est très mauvaise dans le fait de faire du networking. Donc en fait, on n'aurait pas trop d'occasion non plus d'avoir des gens qui nous diraient « Ah, faites comme ci, faites comme ça », etc. Et puis en plus, on... Il n'y a pas trop d'autres boîtes qui, d'un côté, essayent de monter un podcast et de continuer à l'animer, puis en même temps...
Je crois que vous êtes un peu un cas unique. Hein,
On s'en rend compte aussi parce que je pense que les gens qui nous suivent depuis maintenant 6 ans, ça leur paraît très logique. On a commencé par être un podcast. Comme on l'a dit, on a accueilli des gens qui avaient plein de problématiques qu'ils n'arrivaient pas à régler, donc on a créé des produits pour les aider. Et en fait, tout a du sens quand tu nous suis depuis le début, mais si tu débarques aujourd'hui, que tu ne nous connais pas, que tu arrives sur notre page Instagram ou sur notre site internet. Tu te dis, ouais, je comprends pas, c'est un podcast, c'est une marque de soins, c'est quoi ? Enfin, t'as pas trop de marques comme ça. En fait, les marques qui ont des podcasts, c'est parce qu'à la base, elles sont une marque et elles ont créé un podcast promotionnel. Nous, c'est pas ça. En fait, tout se répond et tout fonctionne ensemble. Et pour le coup, il y a personne d'autre qui fait ça. C'est un cas d'école. C'est clair. Merci mille fois pour votre écoute et surtout pour la confiance que vous nous accordez depuis toutes ces années. Si notre émission existe toujours et reste indépendante, c'est uniquement grâce à votre soutien et à vos commandes sur notre boutique entrenoslèvres.fr. D'ailleurs, pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Maintenant, on est même sur TikTok. Et découvrir nos soins sur notre site internet entrenoslèvres.fr où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. On y raconte plein de trucs chouettes. On dévoile nos coulisses, on vous livre tous nos conseils et on partage même tout plein de recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Marthe Cuny et la musique du générique par Martin de Bauer. Allez, à bientôt.